Bonjour à vous.
Voyager, ça peut donc être risqué, y compris pour notre santé psychique. Et le syndrome du voyageur se décline sous différentes formes. Par exemple, les fans de culture, ils peuvent être atteints du syndrome de Stendhal.
Oui, quand ils vont à Florence et ils sont sous l'émotion des musées, il y a eu beaucoup de cas décrits dans la littérature. C'est une réalité qui est quand même contestée. Et la vraie question, c'est est-ce qu'on souffrait d'un trouble psychique avant, qui s'est déclaré lors de ce choc culturel, ou il apparaît à ce moment-là? Parce que finalement, voyager, c'est l'occasion de dérailler.
Quelle que soit la méthode de voyage.
Oui, nous on en profite déjà avant pour dérailler.
Vous êtes toujours en voyage, Michel.
C'est peut-être ça, oui. C'est vrai qu'il y a la ville de Jérusalem. Moi, j'étais allé il y a quelques années. Ce berceau des religions monothéistes a également donné son nom à un syndrome. On peut réellement l'expliquer. C'est vraiment, il y a quelque chose de mystique.
Il y a quatre villes hein, qui sont propices à la folie, je dirais. C'est Florence, Jérusalem, l'Inde et Paris. Et ils fonctionnent aussi c'est la notion de choc, en fait, qu'il faut comprendre. C'est qu'en fait, on part en voyage avec des attentes. Et plus on a d'attentes, plus on risque d'être déçu. C'est comme dans le couple. Hein.
C'est un grand voyage aussi.
Il y a des syndromes.
Il y a des syndromes de choc culturel conjugaux. Et par exemple, les Asiatiques qui vont à Paris s'attendent à la ville d'Amélie Poulain, avec des rues charmantes et des gens sympathiques, hein, romantiques. Et on sait ce que sont les Parisiens.
Ah bah, dès qu'il croise le premier serveur, il a tout de suite compris. Hein.
Voilà. C'est une ville qui est sale. Et les Asiatiques, pour eux, c'est même pas pensable.
On parle de vrai pétage de plomb, parce que moi j'avais déjà entendu parler, je le connaissais sous le nom du syndrome du japonais, donc en fait c'est le syndrome de Paris pour les japonais, mais qu'il y a vraiment des touristes qui vrillent fou, c'est vrai ça?
Ouais, alors il y a toute une dimensionnalité, et c'est pas tout ou rien. C'est en fait, quand on voyage, on peut vivre à des moments d'anxiété, on est un peu parfois désarçonné, dérouté. Je prends toutes ces expressions, hein, on perd un peu le nord. Et finalement, les vrais cas de syndrome délirant à proprement parler, en tout cas, moi, les rares cas que j'ai rencontrés, parce que c'est quand même pas fréquent, de moments vraiment délirants, il y avait une prédisposition avant. Je pense à une jeune patiente qui est partie, elle était vraiment épuisée en burn-out, elle a eu beaucoup de mal à s'acculturer.
Alors, on parlait, vous donniez des exemples de différentes villes. On parlait de la ville de Jérusalem. Si on revient à cette ville-là, des gens qui, en arrivant là, ont certainement peut-être des prédispositions à souffrir de problèmes psychiques, vont se prendre pour Dieu, pour Jésus?
Alors, pas forcément. Il y a un cas qui a été décrit par un collègue psychiatre d'une dame qui pensait qu'elle était la réincarnation de Hitler et qui s'est dit, pour ne pas faire souffrir le monde, je vais me suicider. Et elle l'a eu en allant là, il n'y a pas forcément un écho, je dirais, entre le contenu délirant et le lieu. Jérusalem, bien sûr, c'est cette dimension mystique. Florence, il y a un peu de ça aussi, hein, c'est cette dimension esthétique. C'est un grand débat sur l'art contemporain.
franchement, vous n'y croyez pas trop, vous, apparemment.
Moi, je pense que j'ai du mal à croire qu'on ait un authentique syndrome délirant. Il y a des moments, effectivement, où on est un petit peu dérouté, mais il y a certains psychiatres qui décrivent vraiment un syndrome délirant, une bouffée délirante aiguë qui guérit dans l'avion au moment du rapatriement.
Vous prenez un peu de distance.
Oui. Par contre, il y a des moments, effectivement. Je vous donne un exemple. J'ai une patiente qui souffre de schizophrénie, qui est revenue hier d'un grand voyage, et elle avait été pickpocketée sur place. Eh bien, elle s'est très très bien débrouillée. Elle a réagi de façon complètement adéquate malgré son trouble psychique. Et inversement, donc moi je dirais qu'il faut pas confondre le malade en vacances et la maladie de vacances. C'est-à-dire que le malade en vacances, il y a toute une description aussi de la psychiatrie avec les voyages pathologiques ou l'émergence d'un trouble psychiatrique qui se fait au moment de ce choc. Et la maladie de vacances, et je penserais pas tout de suite à un trouble psychiatrique, je penserais peut-être plus à un problème d'infection comme les encéphalites ou les prises de... On sait que le lariam, par exemple, la méfloquine, on conseille de le prendre 3 semaines avant de partir en voyage parce qu'il y a toute une symptomatologie psychiatrique. En gros, c'est aussi de penser à une assurance rapatriement. Ça, c'est aussi pour rappeler ça. C'est bien d'y penser. Le syndrome du voyageur est rare.
J'allais vous demander, est-ce qu'on peut prévenir ? Ben voilà, il y a ça. Voilà, on est d'accord. Mais moi, la question que je voulais savoir, c'est est-ce que ça touche beaucoup de monde ou est-ce que c'est vraiment une petite marginalité ?
Les grands syndromes délirants au moment des vacances, c'est rare, heureusement. Par contre, on est tous un peu perdus. Je veux dire, quand on va sur la Rambla et qu'on nous met dans la tête qu'il y a des pickpockets, on devient un petit peu parano, je veux dire. On n'est pas très détendu, par exemple.
Et puis, on vous parlait tout à l'heure également du syndrome de l'Inde. C'est un syndrome qui, justement, quand on voyage, on change de culture et puis on peut être confronté à des endroits où règne une très grande pauvreté, une grande misère. Et ce choc-là, on ne l'a pas anticipé.
Oui, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Il ne faut pas partir avec trop d'attentes idéalisées. Il faut partir en vacances parce qu'on a envie de découvrir un endroit. Mais effectivement, on renverse nos habitudes. Et si on se sent un peu fragile, et d'ailleurs les gens le sentent bien quand ils organisent leur voyage, il faut mettre des points de repère. Par exemple, il y a des gens plus ou moins aventureux qui vont réserver tous les hôtels et d'autres pas du tout. Ou alors qui vont emmener dans leur valise, comme dans la chanson de Dorothée, mes chaussettes rouges et jaunes, un petit poids, etc. Je signe mon âge. Ça rassure d'avoir ces petits objets. Les Anglais autrefois partaient avec leurs meubles.
Oh, puis les Suisses avec leur petit pot d'aromates aussi. Hein.
Ben oui.
Mais ça veut dire que psychologiquement ou même psychiatriquement, c'est simplement, on est un petit peu déstabilisé. C'est ça qui fait que notre cerveau va avoir quelques, j'allais dire, des tout petits dysfonctionnements. C'est ça qui pourrait nous amener à ces syndromes.
Exactement. Le côté de déstabilisation est très vrai. Comme quand on fait un déménagement, on sait que les gens qui déménagent vivent un grand stress qu'on mésestime. Mais après, il n'y a pas que les... Il y a aussi les psychiatres voyagent aussi, hein, et puis...
Ils vont en éclairer.
Mais oui, par exemple, il y avait Moreau de Tours qui était parti en voyage en Moyen-Orient et qui avait ramené du hashish. Il ramenait des souvenirs de voyage comme ça. Et du coup, après, il a organisé des soirées, des hashish parties, des soirées à la confiture verte dans son hôtel de Pimodan pour explorer la pathologie mentale. Et finalement, l'idée du voyage, surtout, c'est d'aller se découvrir. Et c'est pas d'aller se perdre. Donc, quelque part, dérouter, c'est d'abord un moyen de se découvrir et de connaître sa capacité à réagir à l'aventure, à l'inattendu. Et faut avoir vraiment confiance dans ses ressources.